VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon, il est 11h à Bamako. Des manifestants de l'opposition ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre aujourd'hui à Moroni, alors que le petit archipel des Comores attend les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Les gendarmes ont dispersé avec des lacrymogènes et des balles en caoutchouc plus d'une centaine de partisans de l'opposition qui manifestaient au lendemain de l'élection présidentielle. Dès avant le vote hier, des leaders de la société civile avaient exprimé des doutes sur le processus. Adinani Youssouf est le président de la Fédération des associations comoriennes des droits de l'homme.
Vous avez une élection, c'est une compétition, mais une compétition qui repose sur des règles de droit. Or, justement, ces élections n'ont aucune règle, puisque le juge électoral, qui était la Cour constitutionnelle, a été supprimé. Alors que le juge électoral doit être libre et indépendant. On a transféré ses compétences à la Cour suprême, alors que la Cour suprême n'a aucune compétence en matière électorale. Simplement, on sait qu'à la Cour suprême, c'est le président Zali qui nomme tous les juges.
Adilani Youssouf au micro de Abdou Chakou Aboud. La conférence nationale qu'a proposée Abdelaziz Bouteflika pour réformer l'Algérie avant qu'il transmette le pouvoir est inutile et un nouveau président doit être élu maintenant, a estimé dimanche le porte-parole du parti présidentiel Ousmane Khaldoun sur la télévision privée Zaï News. La direction du Front de Libération Nationale, FLN, du chef de l'État s'est toutefois rapidement démarquée des propos de son porte-parole, assurant dans un communiqué renouveler son attachement à la feuille de route décidée par le président dans l'organisation d'une conférence nationale. Le parti au pouvoir au Nigeria a remporté l'état clé de Kano, c'est dans le nord du Nigeria, lors du scrutin pour l'élection de gouverneur d'après le bureau local de la commission électorale. L'opposition nigériane a aussitôt contesté le résultat en raison de violences ayant entaché le vote samedi. Les Nigériens étaient retournés aux urnes pour élire des gouverneurs d'État et membres d'assemblées régionales après l'invalidation il y a 15 jours d'un scrutin émaillé de violence. Au Mali, le gouvernement a annoncé dimanche avoir mis fin aux activités d'une milice de chasseurs Dogon et limogé les chefs de l'armée. Ceci au lendemain du massacre de quelques 130 peuls dans des attaques contre les villages d'Ogosagou, Welingara et Guiwagou dans la région de Mopti. À Bamako, retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
Le samedi 23 mars 2019, entre 5h et 6h du matin, des centaines d'hommes habillés en tenue traditionnelle des chasseurs ont attaqué de façon simultanée les villages de Ogosagou, tuant plus de 130 personnes. Parmi les victimes, il y a des femmes enceintes, des enfants de bas âge, des vieillards. Mohamed Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Dès que nous avons appris l'information, une force de réaction rapide de la MINUSMA a été aussitôt déployé. De même, des mesures pour évacuer les blessés vers ces barrés ont été aussitôt prises.
Les assaillants ont incendié le village, brûlant 84 greniers et des animaux domestiques. Le gouvernement du Mali s'est réuni hier en conseil des ministres extraordinaires. Soumelou Boubé Maïga, premier ministre du Mali.
C'est ainsi que nous avons procédé à la dissolution de l'association Dana Massagou pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État et de désarmer de manière active toute personne qui ne devrait pas être armée. Et puis, le Conseil a procédé à la nomination du nouveau chef militaire en essayant de remobiliser encore plus nos forces.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les centaines de milliers de personnes affectées par le cyclone Idai en Afrique australe sont désormais menacées par une épidémie inévitable de maladies transmises par l'eau, notamment le choléra, ont averti les autorités qui ont encore revu le bilan à la hausse dimanche à plus de 700 morts. Le bilan devrait encore monter puisque des zones jusqu'à présent isolées deviennent désormais accessibles, a prévenu dimanche le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Près de 2 millions de personnes sont affectés par le cyclone et ses inondations dans toute l'Afrique australe. Ethiopian Airlines garde sa confiance dans le constructeur américain Boeing malgré le crash d'un de ses 737 MAX 8 le 10 mars, le deuxième en 5 mois qui a conduit à l'immobilisation de ce modèle à travers le monde, a affirmé aujourd'hui le PDG de la compagnie éthiopienne. Cette prise de parole du patron d'Ethiopian Airlines intervient 3 jours après que la compagnie indonésienne Garuda eut annoncé son intention de renoncer à une commande de 49 appareils appareils de ce modèle, car les passagers de Garuda ont perdu confiance dans le 737 MAX 8, selon un porte-parole de la compagnie.
Nos infos sur voaafrique.com.
Jean-Roger Billon à ce micro. Il est 7h05 à Washington. La Maison-Blanche se réjouit de la fin de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, avec la conclusion du procureur spécial Robert Mueller écartant l'idée de collusion entre la campagne Trump et Moscou. Par ailleurs, le rapport final n'a mentionné aucun délit, du moins selon le ministre de la Justice, William Barr, qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires sur le fondement de l'entrave à la justice. Pour une première analyse, VOA Afrique a joint l'ambassadeur Herman Cohen.
Oh, c'est une bonne nouvelle pour le président, parce que lui-même ne cessait pas de dire pendant 18 mois maintenant qu'il n'y avait pas de collusion et que lui et sa campagne n'ont pas coopéré avec les Russes pour faire la fraude dans les élections américaines. Donc, il doit être très heureux maintenant.
Avant de prendre l'avion pour revenir à Washington, de la Floride où il était, le président Donald Trump a réagi. On dirait qu'il était un peu en colère. Il a jugé honteux ce qui lui est arrivé. Il a dit que l'enquête l'a complètement disculpé, mais que c'était honteux d'avoir fait subir cela à un président. A-t-il raison?
Non, c'est lui qui ne cessait pas de parler de ça. Pendant l'enquête, c'est lui, Trump, qui ne cessait pas de parler de ça. C'est une enquête qui est stupide, ridicule. Sauf que c'est lui qui a s'imposé sur lui-même.
Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que le Congrès des États-Unis va poursuivre ses propres investigations sur le président? Devrait-il le faire?
Les démocrates ont gagné majorité dans la Chambre dans l'élection de 2018. Et maintenant, ils ont le droit de mener des enquêtes. Les présidents de plusieurs commissions de la Chambre ont dit qu'ils vont poursuivre des enquêtes, pas seulement sur l'ingérence russe et la coopération, mais est-ce qu'il y avait des choses criminelles dans ce que Mueller a trouvé, par exemple, dans les affaires de l'organisation Trump Hotel.
Mais, ambassadeur Cohen, quelles pourraient être les retombées politiques d'une telle démarche de la part des démocrates?
S'il trouve que, par exemple, l'hôtel que Trump a voulu construire à Moscou était financé par l'argent blanchi des criminels, par exemple, dans les banques de Chypre ou des banques à Moscou, ça peut être un mal contre Trump et contre son organisation.
Oui, ça c'est un gros si, mais est-ce que cela pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump pour 2020?
S'il trouve des choses criminelles, non. C'est pas. Mais s'il trouve rien, bien sûr, Trump peut répéter, ils m'ont cherché partout, ils ont cherché des fausses nouvelles, etc. Je suis persécuté. Et les gens qui sont pour lui, parce qu'il a une base de citoyens qui sont farouchement pour lui, ils vont continuer à voter pour lui, non, bien sûr.
Herman Cohen, diplomate et analyste politique, il répondait aux questions de Gaby Dorsil. Et puis Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Cette visite, initialement prévue sur 2 jours, sera toutefois écourtée, a annoncé le premier ministre israélien lui-même à la suite d'un tir de roquette en provenance de la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi, qui a fait 5 blessés en Israël. Monsieur Netanyahou a indiqué qu'il rentrerait dans son pays aussitôt après sa rencontre avec le président américain, promettant de riposter avec force à cette attaque criminelle. Un tête-à-tête est prévu dans le bureau ovale aujourd'hui même en milieu de journée. Et pour terminer, Pyongyang a redéployé son personnel dans le bureau de liaison intercoréen quelques jours après l'avoir retiré unilatéralement dans la foulée de l'échec du 2e sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, a annoncé Séoul ce lundi. Ce bureau situé dans la ville nord-coréenne de Kaesong avait été ouvert en septembre dans le cadre d'un spectaculaire rapprochement sur la péninsule mis à mal par le blocage des discussions sur la dénucléarisation entre Pyongyang et Washington. La Corée du Nord a retiré son personnel la semaine dernière sans explication. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque avec vous. Nous sommes le lundi 25 mars 2019.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.